Bienvenue à tous, bienvenue à nos visiteurs. Nous avons plusieurs visiteurs durant l'été. Normalement, aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel, nous en avons tellement. Il y a des missionnaires américains qui sont là pour la dernière fois pendant ce mois. Nous avons aussi des visiteurs d'autres églises. Soyez les bienvenus et bien sûr, bienvenue aussi aux réguliers. Nous avons le privilège d'avoir la Bible entre les mains. Il y a des Bibles à disposition si vous voulez en avoir. Nous allons vraiment nous concentrer maintenant sur la parole de Dieu, et j'aimerais prier avec vous avant d'ouvrir la Bible. Père Céleste, notre espoir est en toi, notre foi est en toi, et nous voulons ce matin te prier que ta parole demeure en nous, qu'elle soit présente et active en nous. Merci que ta parole est vivante, elle est tellement vivante qu'elle peut créer la vie chez nous, peut nous apporter la nouvelle naissance. Cette semence incorruptible est présente aujourd'hui. Et nous te prions, Seigneur, que tu implantes ta vérité en nous, que nous puissions rester attachés à toi. Ouvre nos yeux pour que nous puissions te contempler ce matin et encourage-nous aussi dans nos cœurs pour que nous puissions nous engager envers toi de la manière qu'il faut. Seigneur, crée la vie là où il n'y a pas encore de vie et donne-nous surtout qu'ils te connaissons ce réconfort de savoir que nous sommes à toi. Au nom de Jésus. Amen. Mon thème ce matin, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Classique, n'est-ce pas? Trois choses qui vont ensemble. Et la question à laquelle je veux réfléchir et dans laquelle je veux vous encourager, c'est comment être rempli de foi, d'espérance et d'amour aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de foi ces jours-ci. En Belgique, selon une étude qui a été menée en 2023, on estime que 50% des Belges sont catholiques. C'est bien moins qu'il y avait avant. Et ça, c'est seulement ceux qui se réclament d'être catholiques. Il y aurait environ que 2,5% de la population régulièrement à la messe. Il y a environ 8% de la population belge qui se disent musulmans. Alors, à Bruxelles, c'est plus, mais 8%, c'est pour la Belgique entière. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui disent qu'ils ont la foi. Qu'est-ce qui progresse? En fait, c'est le nombre de personnes sans religion. Ceux qui ont choisi l'athéisme. Ceux qui ont décidé d'être indépendants de toute religion et qui ont trouvé des substituts de Dieu dans l'argent, le plaisir et autre chose pour leur vie. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire que les catholiques et les musulmans et nous croyons les mêmes choses. Mais c'est intéressant, quand on est en vacances, de regarder un petit peu autour de soi quel est l'état des religions. Et si nous croyons en Dieu, quand nous parlons à des gens qui croient en Dieu, nous avons déjà un point de départ pour dialoguer, pour débattre de qui est Dieu et de comment il est. Et on constate qu'il n'y a pas beaucoup de foi en Belgique comme en Europe. Il n'y a pas beaucoup d'espérance non plus. Parlez un petit peu aux jeunes, cette génération montante, qui regarde ce qui se passe et qui disent « il n'y a pas beaucoup d'espoir pour l'avenir ». Peut-être que vous êtes parmi ces jeunes qui ont peur par rapport à l'avenir. L'intelligence artificielle pourrait prendre leur boulot, le réchauffement de la planète pourrait rendre leur vie très désagréable. Ils ont peur, en voyant les guerres qui se passent dans le monde, d'être envahis à leur tour. Avant, les jeunes étaient plus optimistes que leurs parents. C'était les parents qui étaient un peu pessimistes et les jeunes qui étaient pleins d'optimisme. Maintenant, on voit que les jeunes ont peur d'être adultes, peur d'avoir des enfants même. Et puis l'amour. Il n'y a pas beaucoup d'amour non plus dans cette société. Des sensations fortes, oui. Une recherche de l'âme sœur qui est basée sur des critères superficiels plutôt que réellement sur l'âme de la personne. Il y a peut-être une forme d'attachement à un groupe d'amis ou à une communauté, qu'elle soit nationale ou linguistique. Oui, ça c'est vrai. Mais de l'amour, vraiment aimé, pourtant ce sont des qualités chrétiennes. La foi, l'espérance, l'amour. Nous les avons vécues, nous les avons connues. Et nous pouvons grandir dans ces trois qualités chrétiennes. Alors je veux dire seulement en introduction que ces qualités ne sont pas des qualités qui nous sauvent. Ce n'est pas parce que nous avons de la foi ou de l'amour ou de l'espérance en quantité que nous sortons du lot et que Dieu dit « Ah, ben, ces gens-là, je veux les sauver ». Nous n'avons pas de quoi nous recommander auprès de Dieu. Si nous imaginons que ce trousseau de clés représente les différentes qualités que nous avons et que nous sommes devant une serrure qui est la porte de l'entrée dans le royaume de Dieu. Vous savez, ce n'est pas ma foi qui va m'ouvrir le royaume de Dieu. Ce n'est pas mon espérance qui va m'ouvrir la porte au royaume de Dieu. Ce n'est pas mon amour qui peut me sauver, me laisser entrer dans le royaume de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. C'est seulement par la croix de Christ où il prend nos péchés sur lui et où il nous laisse entrer dans son royaume. Si vous voulez, la porte est ouverte de l'intérieur et je rentre dans le royaume de Dieu. Mais une fois que je suis sauvé, alors la foi et l'espérance et l'amour découlent de ce que j'ai reçu par la grâce de Dieu. Alors lisons, en 1 Thessaloniciens chapitre 1, 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 2 à 5. La foi, l'espérance et l'amour se trouvent là, réunis. La première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 2. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous, en faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu, qu'il vous a choisis, parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Dans cette introduction à sa lettre, Paul explique qu'il prie pour les destinataires. C'est souvent ce qu'il fait, n'est-ce pas? Lorsqu'il écrit une lettre, il dit « Je prie pour vous » et ici il mentionne ce qu'il prie pour eux. Il est plein de reconnaissance envers Dieu quand il prie pour eux. Et ce que nous voyons là, la présence de la foi chez eux, à l'église de Thessalonique, ils avaient de l'espérance et ils avaient de l'amour, cette qualité de Dieu que nous allons explorer aujourd'hui. Alors c'est quoi la foi? La foi est la confiance en Dieu. Et la foi chrétienne est active. Ce n'est pas simplement une notion que nous avons en tête. C'est l'œuvre de la foi. Vous voyez, cette foi, elle est agissante, verset 3. Comme dirait Jacques dans sa lettre, la foi sans les œuvres est morte. Donc forcément, si la foi est réelle, elle produit des œuvres, elle agit, elle est obéissante. C'est aussi, verset 5, une pleine conviction. Alors leur foi est décrite encore plus au chapitre 2, le chapitre suivant, verset 13. Il dit « C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. » Donc la foi est basée sur la parole de Dieu, sur une pleine conviction du caractère de Dieu. C'est plus qu'une liste d'articles de foi que nous pouvons lire ou réciter en Église. C'est des choses que nous comprenons, des choses que nous acquiesçons, oui, mais c'est surtout une confiance totale en sa personne, la personne de Dieu. Ça, c'est la foi. Alors, quand nous comprenons qui est Dieu, nous comprenons, par exemple, qu'il est puissant et donc je peux lui faire confiance, qu'il va agir. Nous comprenons que Dieu est bon et donc il va tourner ce qui se passe dans ma vie qui est mal, il va le tourner en bien pour moi. Je crois que Dieu est éternel, en dehors du temps, et donc il comprend mieux ce qui va se passer, il sait, il maîtrise tout. Et il est aussi celui qui a une autre perspective, il n'a pas le même timing que nous. Il est maître des circonstances. Et notre compréhension de Dieu, vous voyez, ça doit nous aider à lui faire confiance. Alors ce n'est pas donc surprenant que si nous n'écoutons pas la Bible, si nous écoutons plutôt les médias ou les voisins ou les philosophes de notre société contemporaine, si nous écoutons les profs, on finira par avoir moins de foi. Notre foi augmente au plus nous écoutons la parole de Dieu, mais elle diminuera au plus nous écoutons les autres voix de ce monde. Nous avons besoin d'entendre régulièrement la parole de Dieu, d'en faire une habitude, afin qu'elle façonne nos pensées et nos attitudes, notre cœur. Mais aussi, nous avons besoin de voir, comme chapitre 2, verset 13 nous l'indique, que la parole de Dieu est à part de tout ce que nous pouvons entendre comme communication de la part des hommes. C'est vraiment la parole de Dieu. Et ça va nous booster dans notre foi. Et puis, si on revient au chapitre 1, au verset 8, il est indiqué que la foi se fait connaître. Verset 8, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous, en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. Une foi qui n'est jamais exprimée, une foi qui est secrète, qui est cachée, est-elle vraiment la foi ? Je ne parle pas d'un contexte de persécution où il faut parfois être sage et ne pas dire à haute voix qu'on est chrétien, on doit peut-être être extrêmement prudent dans certaines circonstances, mais dans la vie ordinaire, en Belgique, si personne ne sait que tu es chrétien, es-tu vraiment en train de vivre la foi en Christ ? Comment peux-tu représenter Christ si personne ne sait que tu crois en Christ ? Est-ce que ton interaction principale avec des non-chrétiens, c'est de te faire des amis ? D'être populaire ou de bien travailler comme collègue pour que tu gagnes le respect de tes amis, mais tu ne veux jamais leur dire que tu es chrétien ? Tu ne veux jamais exprimer une autre opinion que l'opinion populaire ? La foi, normalement, se montre. La foi s'exprime si elle est active. Et en fait, souvent, nous trouvons que les gens sont curieux. Si les statistiques que j'ai révélées au début sont vraies, alors tu es une anomalie si tu es croyant. Tu es tellement en minorité que probablement les autres gens qui t'entourent n'ont pas rencontré de vrais chrétiens. Et quand tu dis que tu es chrétien, ils vont être curieux, certains vont être curieux en disant « Mais c'est quoi en fait un chrétien ?» Dans vos écoles, dans vos campus, dans votre cercle d'amis. Vous savez, un de mes voisins qui avait une trentaine d'années, il était italien, il travaillait en Belgique, il m'a dit « Tu es le premier protestant que j'ai rencontré de ma vie. » Extraordinaire, n'est-ce pas ? Alors nous avons ce privilège d'être les porte-parole de celui en qui nous croyons. Profitons des occasions que nous avons pour faire connaître notre foi, elle est active. Mais nous allons parler un peu plus de l'espérance. La foi est un élément basique, nous croyons au Seigneur, Dieu de la Bible, aujourd'hui. Mais l'espérance est nécessaire aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut définir l'espérance ? L'espérance est la confiance en Dieu tournée vers l'avenir. C'est cette conviction que Dieu va faire quelque chose. Il va agir. Je crois en Dieu pour aujourd'hui, ça c'est la foi. Mais je crois en Dieu pour demain, ça c'est l'espérance. Pour l'année prochaine, pour la fin de ma vie, pour l'éternité, je crois en Dieu, j'ai l'espérance en lui. Alors il est clairement nécessaire de dire deux choses par rapport à l'espérance. La première, c'est que l'espérance est quelque chose de sûr, de quelque chose de solide dans l'espérance chrétienne. Il parle ici, au verset 3, toujours en parlant des Thessaloniciens, des chrétiens du 1er siècle, de la fermeté de votre espérance. L'espérance est ferme, ce n'est pas la fragilité de l'incertitude. L'espérance en notre Seigneur Jésus-Christ est quelque chose de fort. Une conviction en Dieu. La deuxième chose à dire rapidement est que l'espérance doit être en lien avec la parole de Dieu. Je pense que là, il y a parfois une difficulté pour les chrétiens. C'est que nous espérons toutes sortes de choses de Dieu, mais elles ne sont pas toutes nécessairement basées sur la Bible. Et si nous croyons, et nous avons des attentes de la part de Dieu, même si nous y croyons à fond, mais que Dieu ne l'a pas promis dans la Bible, peut-être qu'on va se tromper et on va être en difficulté parce que nous serons déçus, parce que Dieu ne nous a pas donné quelque chose qu'il n'a pas promis de nous donner. Je vais vous donner un exemple. J'ai le désir que ceux que j'aime croient en Christ et se tournent vers lui. C'est un désir que j'ai qui est très fort. Et je crois en Dieu, Dieu est tout-puissant. Mais je n'ai pas la même espérance. Par rapport à ça, c'est plutôt une confiance aveugle en Dieu. Je ne sais pas si Dieu va sauver mes amis. Je n'ai pas de promesse dans la Bible comme quoi il va sauver mes amis. Je ne sais pas quand il va agir, je ne sais pas avec quel résultat il va agir. Donc je lui fais confiance. L'avenir est entre ses mains. Je peux prier, je peux demander à Dieu d'agir, bien sûr, mais je ne sais pas s'il va dire oui ou non à mes prières. Par contre, pour d'autres choses, par exemple au chapitre 4, verset 13, toujours dans l'Épître aux Thessaloniciens, il dit ceci. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Il parle de quelle espérance là ? De l'espérance de la résurrection d'entre les morts, de ceux qui sont à Christ. Et là, il y a une promesse que lorsque Jésus viendra, verset 14, Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts et qui avaient la foi en lui. Donc là, j'ai une espérance solide, parce qu'elle est basée sur une promesse de la Bible. Vous voyez ? Mon espérance doit cadrer avec les promesses que Dieu a faites dans la Bible. Sinon, je suis juste en train d'espérer et d'avoir la foi. Bien sûr, je dois avoir la foi en Dieu, mais sans certitude. Alors nous, en tant que chrétiens, nous sommes censés être marqués, non seulement par la foi, mais aussi par l'espérance. Revenons au chapitre 1, versets 9 et 10. Voici ce qui s'est passé aux Thessaloniciens. Ils se sont tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ça, c'est la foi, la repentance. Et verset 10. Et pour attendre du ciel son Fils, qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Ça, c'est notre espérance. Un peu plus tôt cette année, nous avons parlé du retour de Christ. Nous avons parlé plusieurs dimanches du retour de Christ, notre espérance. Parfois, les choses à venir font peur aux chrétiens. Mais nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur par rapport à l'avenir. Nous savons ce qui viendra. Nous savons comment Dieu amènera la fin du monde et nous savons que Dieu nous protégera. Il y a différents scénarios catastrophiques que le monde annonce, que les films annoncent, qui ne vont pas se réaliser. Nous ne devons pas avoir peur de ça. Un météorite ne va pas détruire la planète. Il n'y aura pas d'invasion d'extraterrestres. Ce n'est pas l'augmentation de la température qui va mettre fin au monde. Nous savons ce qui vient. C'est le retour de Christ, lorsque Dieu a décidé qu'il va juger le monde avec justice, par Jésus-Christ. Et nous savons, si nous sommes en Christ, nous sommes prêts pour cela, prêts pour ce jour. Il nous sauvera, il nous gardera. Donc, lorsque nous regardons l'avenir, nous regardons sans peur, parce que nous sommes assurés des promesses de Dieu. Foi pour aujourd'hui, espérance pour demain. La troisième qualité, c'est l'amour. L'amour, c'est l'attachement à Dieu pour sa valeur. Croire n'est pas tout ce que Dieu nous demande. Il nous demande de l'aimer. Il nous demande de le suivre. Et ceux qui croient aux promesses de Dieu et espèrent en lui font bien, mais la Bible donne comme le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ici, au chapitre 1, verset 3, il parle du travail de votre amour. Verset 3. Vous le savez, si vous avez déjà invité des gens chez vous, lorsqu'on invite des gens à venir, ben c'est du travail, n'est-ce pas ? Il faut préparer la maison, il faut préparer à manger pour accueillir les gens chez vous, pour que vos invités soient confortables. Et l'amour que vous ressentez pour vos visiteurs motive votre travail. Vous savez aussi, si vous êtes parent, vous travaillez pour vos enfants, ben parce que vous les aimez. Et c'est par amour pour Dieu que nous agissons pour lui. Mais nous le faisons sachant que Dieu nous a aimés le premier. Juste après avoir félicité ou remercié Dieu pour l'amour de ces gens, Paul dit au verset 4, « Vous êtes aimés de Dieu. » Alors, l'amour est un thème clé du christianisme. Un athée se rendait dans une église ce jour-là et il pensait qu'il allait entendre un discours de haine. Il ne connaissait pas les églises, il ne connaissait pas les chrétiens, mais il avait déjà un préjugé en disant « Ouais, je suis sûr que là, je vais entendre, ouais, eux, on ne les aime pas, eux, on est contre, eux, on ne les aime pas. » Et il était vraiment surpris d'entendre, c'était un dimanche classique dans cette église-là, une église locale, le pasteur prêchait sur l'amour, il appelait les chrétiens à aimer davantage les autres. Mais c'est tout à fait chrétien, n'est-ce pas ? Dieu nous a demandé d'aimer les autres comme il nous a aimés. Le message de l'amour doit être le message que nous avons à proclamer. Mais le vrai amour, l'amour en Dieu. Et notre amour pour Dieu doit grandir. Peut-être que tu aimes Dieu, mais tu sens que ton amour pour Dieu est faible. Eh bien, sache que ton amour pour Dieu doit grandir. L'année prochaine, tu dois l'aimer encore plus que tu l'aimes aujourd'hui. Mais l'amour de Dieu pour Dieu peut grandir aussi, mais pas seulement par notre volonté. Il ne suffit pas de dire « il faut que j'aime plus Dieu ». Comment est-ce que je vais aimer Dieu davantage ? Eh bien, voici quelques pistes. Notre amour pour Dieu peut grandir lorsque nous considérons davantage les perfections de Dieu. Pensez davantage à qui est Dieu dans toutes ses perfections. Un jeune astronome peut aimer les étoiles, être fasciné par les étoiles dans le ciel. Et s'il habite dans la campagne ou sur la montagne, il n'y a pas beaucoup de lumière, n'est-ce pas, de la ville là. Et il peut voir les étoiles, couleurs, leurs formes, et apprécier cela. Mais il serait heureux d'avoir comme cadeau un télescope. Et avec ce télescope, de pouvoir voir la nuit les contours des étoiles, leur juxtaposition, être émerveillé à nouveau par tout ce que Dieu a placé dans le ciel. Alors je vous encourage à prendre la Bible comme votre télescope pour voir Dieu à travers la Bible. Voir de manière beaucoup plus profonde, beaucoup plus riche, en couleurs, qui est Dieu et comment il est dans toutes ses perfections, dans sa gloire. La Bible, comme votre télescope, va vous aider à saisir Dieu, à contempler Dieu. Et ainsi, vous serez émerveillé, épaté. Et qu'est-ce qui se passera ? Votre amour augmentera, votre amour pour Dieu. Les psaumes, par exemple, ne donnent pas simplement le commandement « louer l'Éternel », mais les psaumes donnent des raisons de le louer. Ses œuvres, son caractère, par exemple le psaume 33, c'est un appel à la louange, commence en disant « louer l'Éternel ». Et puis il dit ceci « Nous espérons en l'Éternel, notre secours et notre bouclier, c'est lui. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en son saint nom que nous avons confiance. » C'est le psaume 33, mais il y a tellement d'exemples de psaumes, n'est-ce pas ? On appelle à la louange et on donne des raisons pour le louer. Mais une autre piste pour aimer Dieu davantage, c'est de mieux saisir son amour pour nous. Comme il dit au verset 4, nous sommes aimés par Dieu, frères et sœurs, aimés de Dieu, et il vous a choisis. Vous savez, ça n'a rien de banal. Ça n'a rien de normal que Dieu vous choisisse. Vous. Moi. Il y a eu récemment une enquête en Belgique pour savoir ce que les Belges pensent de la monarchie. C'était la fête nationale, alors c'était un peu normal. Hein, la famille royale était un peu mise à l'honneur. Alors ils demandaient aux Belges, qu'est-ce que vous pensez par rapport à la monarchie ? La plupart étaient pour. Et je dirais la même chose, j'aime le roi Philippe. Je suis content qu'il soit roi. Mais je n'ai pas de relation avec lui. Il peut être heureux que j'existe, je paye des impôts après tout. Hein. En général, il est content que je suis là, mais il ne va pas m'écouter. Il ne va pas venir à ma rencontre. On n'a pas de rendez-vous qui est prévu avec le roi Philippe. Donc il est là, mais il ne me connaît pas, on n'est pas en relation. Par contre, imaginez-vous que le roi des rois, celui qui a beaucoup plus de valeur et d'importance que tout homme, toute personne humaine, le Dieu qui a créé l'univers, il nous aime, au point de nous rencontrer, au point de vouloir nous connaître, au point de nous inviter comme si nous étions des petits-enfants. Oui, viens, viens ici, viens à ma fête. Et non seulement des petits-enfants, mais ses enfants. Il veut de nous. Wow. Alors c'est en méditant cela, je pense que notre amour pour Dieu va grandir, parce qu'on se dit qui m'aime comme lui nous aime, n'est-ce pas ? Et on peut évidemment continuer la méditation et la compréhension. Alors, être plein d'amour, de foi et d'espérance. Mais savez-vous que ces qualités que nous avons, qui sont des dons de Dieu, qui doivent être présents dans notre relation avec Dieu, nous devons croire en lui, espérer en lui et l'aimer. Savez-vous que ces trois qualités doivent aussi être présentes dans nos relations avec les autres ? On va regarder un autre texte dans cette dernière partie de la prédication, 1 Corinthiens chapitre 13. Alors c'est un texte classique qui parle de l'amour, mais il parle aussi de la foi, de l'espérance. Et donc je ne pouvais pas laisser passer cette occasion de parler de ce texte. 1 Corinthiens chapitre 13. Vous l'avez sous les yeux ? 1 Corinthiens 13, 1 à 8. Peut-être que vous le connaissez déjà par cœur, mais c'est bien de l'avoir quand même sous les yeux. C'est le même auteur qui a écrit aux Thessaloniciens, maintenant il écrit à une autre église qui sont à Corinthe, c'est donc les Corinthiens, et il leur dit ceci. « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres et même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Ce chapitre contient une ambiguïté. Et je n'ai jamais vu avant cette semaine. Il parle de l'amour. Mais l'amour pour qui ? Il ne dit pas en fait l'amour pour qui. Il dit si je n'ai pas l'amour, mais il ne dit pas l'amour pour Dieu ou l'amour pour les autres. Non, c'est l'amour pour qui ? Bien sûr, nous devons avoir de l'amour pour Dieu. Je viens de dire ça, et je suis sûr que c'est vrai. Mais il me semble que Paul ici vise l'amour pour les autres. Il a en tête les chrétiens de Corinthe qui exercent leurs dons spirituels sans amour pour les autres dans l'Église. Et c'est dans le contexte des dons ici, chapitre 12 et chapitre 14. Qu'est-ce qu'il veut ? Ben en fait, eux, ils veulent que ce soit extraordinaire, que ce soit spectaculaire, mais pas pour vraiment servir les autres. À Corinthe, ils aimaient les prophéties, ils aimaient la connaissance, ils aimaient pouvoir parler des langues étrangères, prier en langue. Paul dit, ceux-ci ne dureront pas. Ce qui a vraiment de l'importance, c'est l'amour. Et l'amour ne passera jamais, verset 8. Et Paul doit leur rappeler que les dons ne comptent pas s'il n'y a pas l'amour aussi, l'amour pour les autres. Et puis l'autre raison pour laquelle je crois qu'il vise l'amour pour les autres, c'est qu'il y a une part de mal ici, de supporter le mal, verset 7. Il n'y a pas de mal en Dieu. Et donc si j'aime Dieu, je ne dois pas supporter le mal. Il n'y a pas de mal en Dieu. Ça doit être qu'il parle des gens, parce que c'est les gens qui nous font mal, n'est-ce pas ? Et je dois avoir de l'amour pour surmonter le mal et de supporter ce que les autres nous font. Donc en cette toute fin de message, je veux évoquer que la foi, l'espérance et l'amour sont aussi nécessaires pour nos relations fraternelles, nos relations dans l'Église. On devrait les trouver dans nos interactions humaines. Croire. Alors on pourrait réagir en disant non, il ne faut surtout pas croire en l'homme. La Bible dit clairement, ne mets pas ta confiance en l'homme, psaume 146. Pas aux dépens de Dieu, bien entendu. Si nous allons placer notre confiance pour notre salut, c'est en Dieu seul que nous espérons, n'est-ce pas ? Mais, regardez le verset 7, l'amour croit tout, il pardonne tout et il croit tout. Quelqu'un se présente devant toi et il fait des excuses, il a fait quelque chose de mal vis-à-vis de toi et puis il fait des excuses. Et ces excuses ne sont pas très complètes à ton goût. Les raisons pour ces actes sont invraisemblables pour toi. Il faut croire ce que l'autre te dit. Il faut croire tout. Ah, nous croyons tout ce que les autres nous disent lorsque nous les aimons. Nous croyons les membres de notre famille. Nous croyons qu'ils disent vrai. Nous ne soupçonnons pas le mal derrière leurs propos. Et nous devons aussi croire tout ce que les autres nous disent dans l'Église. Espérer. Il continue. L'amour espère tout. Espérer en l'autre. Alors, c'est difficile parce que personne n'est parfait, personne n'est fiable à 100% à part Dieu. Et donc, nous avons tendance à être déçus par les autres. Les autres vont nous décevoir, ils vont nous laisser tomber. Et alors, on a tendance à dire, ah, la prochaine fois, elle ne mourra pas, je ne me ferai pas avoir. Il a été en retard deux fois, troisième fois, il va être en retard aussi. Ou, elle m'a laissé tomber la dernière fois que j'avais besoin d'elle, elle va me refaire le coup. Et au lieu d'avoir de l'espoir en l'autre, on commence à avoir des soupçons. Au contraire, par l'amour, il faut surmonter notre tendance naturelle, il faut espérer que demain il sera différent, que demain elle sera au rendez-vous. On espère tout, on espère que ça ira mieux. Nous avons besoin de cela dans nos couples. Espérer que oui, cette semaine sera différente de la semaine dernière. Nous avons besoin de ça aussi dans nos relations familiales, bien entendu. Espérer que nos enfants grandiront et seront plus mûrs. Nous avons aussi besoin de ça dans l'Église, espérer que les autres vont changer, que Dieu va faire son œuvre en eux, qu'il va les sanctifier. Et on peut compter les uns sur les autres. Et puis aussi, évidemment, aimer. Croire, espérer, aimer les autres, aimer en tout temps. L'amour ne meurt jamais, verset 8. Quand il y a des distances, quand il y a des désaccords, alors l'amour fraternel est nécessaire. Et aimer celui qui est différent de nous. C'est ça un défi. Aimer ceux qui sont tout à fait comme nous, ben c'est facile. Ceux qui ont les mêmes loisirs que nous ou qui ont les mêmes origines que nous, ça c'est facile de les aimer. Mais l'amour chrétien va au-delà de cela. L'amour chrétien va aimer celui qui est différent au point où on dit « on n'a rien en commun en fait, mais je vous aime. Tu n'es pas comme moi, mais je t'aime. » Alors ce que j'ai annoncé aujourd'hui, ce n'est pas une vision humaniste, ce n'est pas centré sur l'humanité. C'est une vision profondément chrétienne de la vie. Il faut d'abord croire, espérer en Dieu et aimer Dieu. Mais une fois que nous avons cette foi, cette espérance et cet amour, alors il faut aussi que cela se répande dans nos relations vis-à-vis des autres, cette dimension humaine, pour grandir en confiance les uns envers les autres, pour mieux refléter que nous sommes à Jésus. Amen.